présenter aujourd'hui est un extrait en fait, d'un ouvrage à paraître qui porte sur la manière dont se déploie le discours sur la génétique dans la fiction. Donc, je m'intéresse surtout à la fiction contemporaine sur ce plan-là, aux effets de la biotechnologie, aux modifications génétiques, aux craintes liées au clonage, le fantasme du clonage, le discours sur le post-humain, etc., leur impact dans la fiction. Mais en toute logique, je suis aussi remonté à la pré-génétique, c'est-à-dire à la manière dont on considérait scientifiquement la transmission avant la connaissance des travaux de Mendel, donc avant 1900, puisque les travaux de Mendel ont été publiés en 1866, mais ne seront vraiment connus que redécouverts, en fait, découverts même, pourrait-on dire, en 1900, simultanément par trois botanistes, le néerlandais Hugo de Vries, l'allemand Karl-Erich Korenz et l'autrichien Erich von Stermatt. Alors, ça signifie donc s'intéresser aux lois de l'hérédité à travers des théories autour de la dégénérescence et de l'eugénisme, ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir des effets de résonance assez intéressants entre le discours sur ces questions-là du 19e siècle et aujourd'hui. Alors, je vais en parler pour créer un cadre, mais je vais surtout m'arrêter à une œuvre qui est difficilement qualifiable d'un point de vue générique, qui est un livre de Pierre Roux qui s'intitule « Traité de la science de Dieu » et dont le titre complet est « Traité de la science de Dieu ou découverte des causes premières, ouvrage révélant le grand mystère de l'électricité et du magnétisme, celui de la pile omnipuissante et intarissable et les lois éternelles de la physiologie générale et constituant la galvanoplastique laguerrienne universelle ». Alors, Pierre Roux, le titre déjà en donne une indication, est un fou littéraire au sens où Raymond Queneau définit l'expression dans son roman Les Enfants du Limon. Donc, je rappelle que pour Queneau, un fou littéraire doit avoir déjà publié, ce qui est la preuve qu'il a conservé suffisamment d'adaptation sociale pour ne pas se faire interner. Et ses théories doivent s'éloigner, je cite encore, de toutes celles professées par la société dans laquelle il vit, soit par cette société dans son ensemble, soit par les différents groupes, même minimes, qui la composent. Ce qui signifie que le fou littéraire n'a ni maître ni disciple. Alors l'avantage, c'est que vous n'avez pas lu Pierre Roux, je suis très surpris. Après m'avoir entendu, vous n'aurez absolument pas envie de le lire, mais je l'aurai lu pour vous, donc ça sera fait, vous pourrez dire que vous connaissez Pierre Roux. Si j'en parle, c'est que Pierre Roux m'apparaît comme un symptôme très intéressant d'une conception de l'hérédité qui s'est développée au 19e siècle, où la science sur ce plan est très largement travestie par l'idéologie. Et je dirais que Roux, dans sa folie par rapport aux scientifiques, on pourrait dire, aux scientifiques de son temps, on pourrait dire que c'est un homme sans inhibition. C'est-à-dire que ce que les scientifiques essaient de cacher sous une rhétorique vaguement civilisée, Roux, lui, n'a aucun problème à y aller à fond la caisse dans les attaques sur les pauvres, les sales, les dégénérés, etc., etc. Alors, c'est un livre qu'on peut lire comme un texte de fiction, si on veut bien entendre par là qu'il y a un déplacement du discours d'une époque qui met en relief par des effets rhétoriques singuliers et une imagination débordante les questionnements qu'elle soulève. Et de ce point de vue, mais là, c'est un effet de lecture particulier de ma part, je dirais qu'on peut considérer ce texte-là comme une critique assez forte à sa manière d'une bonne part du discours scientifique sur ce qu'on nomme pas encore la génétique. Alors, disons-le autrement, hein, en 1802, Lamarck va créer le néologisme biologie, biologos, un discours, une parole, un raisonnement sur les vivants. Et tout au long du 19e siècle qui commence, on ne cessera pas de discourir, en effet, sur le vivant, sur les mécanismes qui en permettent le développement et la transmission. Les excès langagiers ne manquent pas à l'aune de nos connaissances. Il y a beaucoup de propos qui apparaissent ahurissants pour le lecteur contemporain. Mais à mon avis, il n'y a rien, mais absolument rien, qui atteint le niveau hyperbolique et délirant de Pierre Roux. Alors, situons un peu le contexte, donc le contexte discursif dans lequel Roux va publier son livre. À tout seigneur, tout à l'heure, je vais commencer par Francis Galton. Hein, Francis Galton, qui est un grand esprit scientifique de son temps, un grand mathématicien, qui est reconnu d'abord pour ses travaux novateurs sur la statistique, mais qui est aussi l'inventeur du sac de couchage, qui a un intérêt pour la météorologie qui a été constant, c'est lui qui crée le terme anticyclone, qui a joué un rôle décisif dans l'étude des empreintes digitales, qui est un explorateur, qui est un géographe, Et pourtant, on le cantonne, généralement à son rôle dans le développement de l'eugénisme, terme qu'il crée et dont il donne la définition suivante. Science de l'amélioration de la race qui ne se borne nullement aux questions d'union judicieuse, mais qui, particulièrement dans le cas de l'homme, s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races moins bonnes. Alors, l'eugénisme, c'est un phénomène de résistance. Hein? Il faut éviter les mélanges qui appauvriraient le sang des êtres supérieurs. Et pourtant, en fait, quand Galton définit cette science, on pourrait dire, d'une certaine façon, que l'esprit de la chose est entendu pour plusieurs depuis longtemps. C'est-à-dire que les concepts de dégénérescence, de race, d'hérédité fondent largement le discours eugéniste. Il faut sauver la race, il faut permettre à l'espèce de s'améliorer en s'appuyant sur le modèle idéal qui est, comme chacun le sait, un homme blanc, hétérosexuel, riche et de préférence barbu parce qu'il est davantage à l'image de Dieu de cette façon-là. Donc, depuis des décennies déjà, on cherche à contrecarrer la dégénérescence en cours. Je rappelle deux dates donc, qui précèdent d'un quart de siècle jusqu'à 30 ans la définition que Galton a donnée de l'eugénisme. 1855, c'est l'année où Joseph Gobineau va publier Essai sur l'inégalité des races humaines, qui est un des fondements de la théorie du racisme. Et en 1857, est publié par le docteur Bénédicte Augustin Morel le traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine et des causes qui produisent ces variétés maladives. Alors, c'est un livre qui compte 700 pages, qui fait le point sur la dégénérescence, et on pourrait dire que par le succès de son livre, il lance le mot. C'est ce que dit Anne Carroll dans son ouvrage « Histoire de l'eugénisme en France ». Elle écrit sous ce mot, Morel met un scénario. Scénario saisissant de l'accumulation des tares à laquelle l'hérédité confère une progression géométrique, scénario dont la fascination va s'exercer bien au-delà de la médecine mentale. Alors, le livre paraît en 1857, c'est aussi en 1857 que va paraître Traité de la science de Dieu de Pierrot, et accessoirement, c'est aussi l'année où paraissent Madame Bovary et les fleurs du mal, alors c'est quand même une assez grosse année. Donc, le concept de dégénérescence, il vient du discours médical, mais il va en déborder tout au long du 19e siècle. Et sans surprise, on va découvrir dans ce discours une profonde nostalgie. Bien sûr, avant, c'était mieux. Maintenant, les nations déclinent, le sang s'appauvrit, la race tombe en déliquescence, ça va très, très mal. Alors, les théories de la dégénérescence, puis de l'eugénisme qui va suivre, se développent sur un fond de crainte des élites économiques qui est lié à la décadence de la civilisation. On peut rappeler des choses que tout le monde sait. Industrialisation, urbanisation rapide, il y a une prolétarisation des classes paysannes, concentration de la population dans les villes qui fait que la ville devient un lieu de débauche, de criminalité, de maladie. La tuberculose, la syphilis, l'alcoolisme encerclent la bourgeoisie, les tares prolifèrent, les monstruosités sont omniprésentes, les crétins, les tuberculeux, les ivrognes copulent comme des bêtes, la natalité se développe chez les pauvres, qui en plus s'organise à travers des mouvements ouvriers, et cette natalité baisse chez l'élite. Ça va vraiment très très mal. Donc le mot eugénisme a canalisé cette peur-là, et Galton est une des figures dominantes, si on veut, d'un phénomène qui est très large. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus, ce n'est pas vraiment le sujet de mon propos aujourd'hui, mais je veux quand même rappeler brièvement que l'eugénisme, ceci dit, on l'associe très rapidement au nazisme. Le nazisme étant une sorte d'hyperbole de l'eugénisme, son mouvement le plus complet, horrible. En fait, au tournant des 19e et 20e siècles, c'est un mot qui a un sens quand même beaucoup plus polysémique que ce qu'on pense. Il y a aussi un eugénisme de gauche, c'est-à-dire qu'améliorer la race, ça veut dire aussi, pour certains mouvements, s'attaquer au travail des enfants, parce que c'est mauvais pour leur développement, faire en sorte que les femmes puissent se reposer avant et après l'accouchement pour leur santé et celle de l'enfant. Il y a même des mouvements où on retrouve des gens comme le généticien américain Hermann Müller, George Bernard Shaw, Aldous Huxley, qui vont défendre au nom de l'eugénisme une vie sexuelle absolument libre pour les femmes, parce que c'est très bon pour leur santé. Alors tout ça se fait au nom de l'eugénisme, qui est donc un terme qui peut aussi renvoyer une forme de justice sociale, c'est améliorer la santé de la population. Alors c'est pas un mouvement monolithique comme on le pense souvent, mais évidemment, le pôle dominant, c'est quand même celui d'une bourgeoisie assez frileuse. Alors, le 19e siècle, évidemment, ne connaissait pas les phénomènes de transmission génétique comme on les connaît maintenant. On pose des hypothèses qui peuvent paraître aujourd'hui aberrantes. Et les débats autour de Mendel vont avoir lieu à partir de 1900, sont assez intéressants parce qu'ils vont opposer très, très vite les eugénistes historiques aux biologistes. En particulier, les deux mouvements sont présentés par deux chercheurs, Carl Pearson, un mathématicien anglais, qui est un grand ami de Galton, ce sera son premier biographe, c'est aussi un eugéniste et un antisémite notoire. Et de l'autre côté, William Bateson, qui est biologiste, qui pour l'anecdote est le père de l'anthropologue Gregory Bateson, qu'il a appelé Gregory en honneur de Gregor Mendel. Donc Bateson défend les théories de Mendel. Et les eugénistes vont s'opposer de façon assez importante aux théories de Mendel. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que les lois de Mendel vont un peu à l'encontre de l'eugénisme. Pourquoi? Bon, je vais reprendre quelques définitions de base, hein, de façon très, très schématique. Le génome, c'est l'ensemble des gènes portés par le chromosome d'une espèce. Un gène, c'est une partie d'un chromosome qui forme une unité d'information génétique. Et on parle souvent de gènes dominants et de gènes récessifs, mais en fait, il faudrait plutôt parler d'allèles dominants ou récessifs, puisque les allèles sont différentes versions, différentes formes possibles d'un même gène. Et quand on parle d'un gène dominant, en fait, on veut dire qu'un allèle domine et dit aux autres de se tairer pour leur laisser la place. Alors, se tairer, ça ne veut pas dire disparaître, ça veut dire ne pas s'activer, attendez votre tour. Donc, pour prendre un exemple, l'exemple classique par excellence, la couleur des yeux, c'est connu que le gène des yeux bruns, est dominant par rapport au gène, plutôt à l'allèle des yeux bleus. Donc, si un homme et une femme, un des deux a les yeux bruns, l'autre a les yeux bleus, font un enfant ensemble, il y a de très fortes chances que l'enfant aura les yeux bruns. Et si cet enfant, une génération plus tard, qui a les yeux bruns, fait avec une personne qui a les yeux bruns un enfant, il y a des bonnes chances qu'il ait les yeux bruns. Et si cet enfant qui a les yeux bruns fait un enfant avec une personne qui a les yeux bruns, ben, il y a des fortes chances il y a des possibilités que l'enfant ait les yeux bleus parce que le gène récessif va réapparaître. Évidemment, ce qui est vrai pour la couleur des yeux, par exemple, est vrai pour toutes les maladies, toutes les formes de maladies génétiques. Alors évidemment, c'est une implication par rapport à l'eugénisme, puisque j'en donnerai des exemples assez troublants ou comiques, c'est une question de point de vue tantôt. Dans les cas les plus extrêmes, les eugénistes voulaient qu'on se débarrasse de ceux qui pouvaient nuire au développement de la race, donc les débiles, les handicapés, les asociaux en tout genre, hein, ça pouvait être assez large. Alors dans des cas, il s'agissait, on pouvait aller jusqu'à dire, tuons-les, hein, on va se débarrasser de tous ces gènes utiles. Dans des cas un peu moins extrêmes, ceux qui étaient très gentils disaient, là, on pourrait se contenter de les stériliser pour éliminer de la race les maillons faibles. Mais à partir du moment où on connaît le principe du gène récessif, la proposition apparaît tout à fait obsolète parce que un gène récessif peut réapparaître chez une personne qui est en apparence tout à fait saine. Et la conséquence ubuesque, c'est pour assurer la perfection de la race, il faudrait stériliser tout le monde. Il me semble qu'à partir du moment où les théories de Mendel et le principe de la génétique est connu, l'eugénisme qui pouvait être perçu à la fin du 19e siècle comme une science, même si ça a été très marqué par l'idéologie, devient purement idéologique. Et d'ailleurs, Galton, à la fin du 19e siècle, donc au moment où on ne connaît pas encore la génétique, Galton, qui n'est pas un imbécile, considère pourtant que les qualités physiques et intellectuelles sont héréditaires. Donc, comme la plupart des Européens de sa classe sociale étaient ou bien racistes, ou bien en tout cas très, très paternalistes, mais enfin, Galton, ce n'est pas Joseph Gobineau, je veux dire, le racisme n'est pas au centre de sa doctrine, mais par contre, ce qui est plus pervers, c'est que pour Galton et pour la plupart des eugénistes historiques, les classes sociales possèdent des qualités qui leur sont propres, qui sont transmises de manière héréditaire. Alors, les différences de classe s'expliquent biologiquement. Et Galton accorde une importance si ténue au milieu que, en fait, c'est quasi nul. Et comme l'écrit Jean-Pierre Thomas dans son livre sur l'eugénisme, en fait, la caractéristique majeure de l'eugénisme est moins d'affirmer que les Noirs ou les Jaunes appartiennent à des races inférieures et sont dignes d'être colonisés par les Blancs, que de traduire en termes biologiques les conflits sociaux pour les dénier. Penser les classes en termes de race, ramener les problèmes sociaux à des problèmes biologiques, Telle est bien la démarche initiale sur laquelle se construit l'eugénisme. Il faut rappeler qu'il y a quelques décennies à peine, hein, la stérilisation systématique pour des membres de la population qu'on considérait mentalement instables ou handicapés était souvent considérée comme une idée pleine de sagesse par une grande partie des élites progressistes en matière sociale. Le cas de la Suède est particulièrement intéressant. Vous savez que c'est ressorti une douzaine d'années. D'ailleurs, l'étude complète sur le sujet qui est ressortie, c'est une recherche qui a été faite par un Polonais, non pas par un Suédois, où on apprenait qu'au moment où la Suède faisait passait des lois sur des régimes sociaux, des lois sociales tout à fait progressives, ces mêmes années, il y avait des records de stérilisation. Et on stérilisait, parmi les exemples spectaculaires que j'ai vus, cette adolescente qu'on considérait comme plus ou moins débile parce qu'elle n'était pas capable de lire ce qui était écrit au tableau. Et après l'avoir stérilisée, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait juste besoin de lunettes. Bon. Des cas comme ça, dans les années 20 et les années 30, il y en a des masses en Suède et un peu partout en Occident. Alors, les membres des classes et des races inférieures, rappelaient le bétail, étaient pensés comme tels. Et je vous cite un livre quand même assez célèbre de Charles Richet, qui s'intitule « La sélection humaine », écrit en 1912. Mais Richet sévit déjà depuis plusieurs décennies. Alors, je vous cite un extrait. « De même que l'homme a pu perfectionner des espèces animales, de même il pourra, s'il veut s'en donner la peine, perfectionner sa propre espèce. Lorsqu'il s'agira de la race jaune, il y a plus forte raison de la race noire. Pour conserver et surtout pour augmenter notre puissance mentale, il faudra pratiquer non plus la sélection individuelle comme avec nos frères les Blancs, mais la sélection spécifique en écartant tout mélange avec les races inférieures. Après l'élimination des races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux. La sélection ne sera efficace que si elle est sévère et la sévérité, c'est l'élimination des mauvais. Or, les mauvais ne vont pas disparaître de leur plein gré. Il faudra donc une autorité pour les éliminer de la société humaine. Charles Richet, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Il remporte en 1913 le prix Nobel de physiologie pour ses recherches sur l'anaphylaxie. C'est un médecin réputé, il est membre de l'Académie de médecine. Ce n'est pas un marginal, c'est un mondain qui fréquente le salon de la comtesse de Noailles, qui écrit des textes pour Sarah Bernhardt. Donc, le discours de Richet, c'est un discours qui est un peu limite, même à l'époque. Mais c'est un discours qui porte, à cause de la réputation de son auteur, et qui est révélateur aussi des propos tenus au tournant du siècle, de manière parfois moins hyperbolique, mais tout aussi convaincue. Alors, on pourrait dire que de la naissance de Charles Richet en 1850 jusqu'à la mort en 1944 d'Alexis Carrel, qui lui aussi va remporter le prix Nobel de physiologie en 1912, et qui va être très très près des nazis, il y a un siècle qui voit le concept de dégénérescence prendre son envol et puis s'écraser sur les barbelés des camps nazis. Mais au début du siècle et à la fin du 19e siècle, on n'en est pas encore là. Le flou du concept de dégénérescence, l'ampleur de la définition qu'on donne à l'eugénisme permet de projeter des fantasmes, des frustrations assez délirantes. Alors, je pourrais en citer beaucoup, mais c'est un de mes préférés, qui est le docteur Binet Sanglé, qui est aussi psychologue, je tiens à le préciser, de profession, qui publie en 1918 un livre intitulé « Le haras humain », ça ne s'invente pas, et qui rêve de réunir, pour régénérer la race, des hommes musclés, poilus, barbus, à gros testicules, à scrotum ferme, à sperme épais, et des femmes en jus et tétonnières. Alors, je vous cite un autre passage du même livre. Les alcooliques sèment à pleine vésicule les enfants du samedi de la Noël et du 14 juillet, dégénérés redoutables, graines d'infirmes, de petits zics, de bandits, d'anarchistes et de religieux. Alors, c'est quand même assez large. Alors, il résulte de ce tableau très rapidement brossé qu'il y a un processus à la fois de mise à l'écart et de normalisation, et dans la fiction, selon les cas, où on appuie le discours médical, dans Charlot s'amuse, par exemple, ou alors on le détourne ou on le ridiculise, par exemple, dans Tribula Bonhomme de Villiers de l'Ada. Et, bon, le détournement qu'on fait de ce discours est d'autant plus vaste que, selon la force du délire de certains, la question de la dégénérescence touche à la fois l'individu, la société, la race, voire l'espèce. Le spectre des dégénérés varie à l'infini, et pour vous donner quelques exemples, ça peut inclure, selon la folie de ceux qui en parlent, bon, les cas les plus spectaculaires de tare stigmatisé et de procréateur à rejeter, ben, vous avez les diabétiques et les gros mangeurs inactifs, les trop grands et les trop petits, les souffreteux et les onanistes, les paresseux et les épileptiques. En fait, c'est à peu près infini. En fait. Chez certains auteurs, tous les gens qui ne peuvent pas supporter méritent d'être éliminés comme ils sont dégénérés. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, au nom de l'objectivité scientifique, on stigmatise beaucoup d'individus qui refusent les normes imposées par la société, voire des classes sociales au complet. Alors, évidemment, il y a toutes sortes de discours. Je pense, par exemple, au discours sur la masturbation qui va tout à fait dans ce côté-là, ou du Pacifique à l'Oural. En fait, tous les hygiénistes, les médecins vont expliquer que la masturbation rend fou. Le docteur De Bourges, en 1860, ça, je pense que j'ai pris ça du livre de Marc, Le curé de Fezandé, écrit que cette pratique abominable a mis à mort plus d'individus que l'ont fait les plus grandes guerres jointes aux épidémies depuis la peste. Je vous rappelle quand même que la peste au 14e siècle a tué le tiers de l'Europe. Bon, impressionnant. Alors, c'est un vice funeste qui dégrade les corps, mais, et c'est ce qu'on retrouve systématiquement dans les textes, c'est que ça touche aussi les esprits et la destruction, donc rejoint dans le texte des médecins ce qui cimente la société. C'est la famille et la patrie qui sont touchées par ce fléau. Et c'est bien sûr aussi une époque où les mouvements ouvriers se développent, où la misère inquiète et menace dans les villes. Georges Vigarello, dans Le propre et le sale, écrit « La propreté du pauvre serait le gage de sa moralité. Il s'agit donc de chasser leurs vices supposés, latents ou visibles, en modifiant leur pratique du corps. » Alors, sous l'obsession maniaque de la masturbation, il y a aussi la crainte du pauvre. On pourrait dire la même chose pour une bonne partie du discours sur la dégénérescence et l'eugénisme. Alors, voilà un peu le cadre général dans lequel Pierroux va écrire son livre. Pierroux, à ma connaissance, j'ai fait des recherches, on ne sait rien de lui. Tout ce qu'on connaît, c'est les traces qu'il en a laissées lui-même dans son livre. Dans la liste des ouvrages du même auteur, il annonce 15 titres, mais à ma connaissance, il y en a un seul autre qui a été publié en 1850 qui s'intitulait « Hygiène pure et nouvelle ». Alors, en admettant qu'on peut se fier sur ses déclarations qu'il fait dans son livre, Pierroux était commerçant à Genève. Le 20 novembre 1842, il y a une révélation. Alors, il est assis sur la chaise percée, et puis il y a la porte entrouverte d'une grande armoire qui, soudainement, laisse passer une lumière sublime marquée par des apparitions de nombreux éclairs. Et il entend en lui une voix divine qui lui dit, va chasser les Anglois hors de France, mais va-t'en à Paris et abandonne ton commerce et découvre la vérité. Alors, il part donc à Paris, il fait toute une série d'expériences manifestement d'avoir sur lui, et il publie, en 1857, Traité de la science de Dieu, un livre de 482 pages qui contient une préface de 179 pages et se termine avec 25 pages d'observations préliminaires. C'est quand même quelque chose d'assez formidable. Pierroux convoque de très nombreuses disciplines scientifiques. Hein. C'est clair que c'est quelqu'un qui a lu énormément, donc il va citer Volta, Maxwell, Ampère, Galvani, en passant par Arago, Faraday. Il cite de nombreux scientifiques célèbres oubliés, ce qui lui permet de s'inscrire dans une filiation institutionnellement reconnue. Et ses travaux portent d'abord sur l'électricité. Alors, il affirme avoir découvert un procédé pour créer une pile omnipuissante et intarissable. Mais malgré la prédominance de la physique et de la chimie, c'est vraiment la physiologie et la dégénérescence qui forment le noyau de son livre. Et après le nom de Dieu, ce sont les mots pureté et hygiène qui reviennent le plus fréquemment dans son livre. Alors là où la rhétorique des médecins et des différents chercheurs tend à donner un vernis d'objectivité scientifique à leur thèse, le délire anthropique de Roux, lui, fait sauter toutes les barrières du savoir. Je vais essayer de vous résumer grossièrement, c'est un complexe travail de synthèse, l'essentiel du propos de Roux, avant de m'arrêter sur ce qu'il rapproche de personnalité plus sérieuse. Alors donc, il initie le lecteur à l'électricité, mais pour opposer de manière sans cesse réitérée le bien et le mal. Donc, l'électricité, c'est présent partout dans l'univers, mais on le sait, il y a un pôle positif et un pôle négatif. Et à ces pôles positifs et négatifs correspondent les forces du bien les trois agents du royaume du ciel, et les forces du mal, les trois agents de l'enfer. Alors, dans le coin, je ne sais pas s'il faut dire dans ce cas-là, coin gauche ou coin droit, en tout cas, les trois agents du bien, eh bien, face à la grâce de Dieu ou électricité pure, à la semence de Dieu ou pollen de l'arbre de vie, et à l'éther ou air primordial, face à ça, vous avez les trois agents du mal, c'est-à-dire esprit du diable ou électricité impure, magnétisme ou agent morbifique, ou semence du diable, et atmosphère ou sueur des astres. Alors, Roux dit qu'il faut défendre le fleuve de l'agence sublime, ou semence de Dieu, ou hydrogène céleste, ce qui est tout un, qui circule dans l'éther et qui est le courant perpétuel de la gloire et de la puissance de Dieu, ou de la pile puissante, omnipuissante et intarissable. Il faut canaliser la substantifique semence de Dieu grâce à la puissance de cette pile qui va assurer la moralité et la pureté de l'être humain, car le corps est enveloppé d'une puissance électrique par où doit passer le courant de cette pile, et évidemment, si c'est bien agencé, ce sont les forces du bien qui vont se retrouver sur les ailes. Alors, ça vous fait peut-être penser à Mesmer et à son fluide magnétique. Eh bien, Roux aussi, vous en faites pas. Roux, c'est un commerçant, il a le sens de la concurrence, et c'est sans doute pour ça que, justement, il va s'acharner sur Mesmer à quelques reprises, en écrivant, par exemple, « Toute la science des magnétiseurs, somnambules et toute la boutique de l'enfer mesmérien n'est qu'une imposture et une forfanterie impudique inventée par les impudiques. » Alors, aussi bien s'en prendre frontalement à un concurrent qui est arrivé un peu plus tôt sur le terrain des pseudosciences. Donc, on se débarrasse de Mesmer et on défend notre produit. Alors, donc, le magnétisme animal a trop de points communs avec le projet de Roux pour faire semblant de l'ignorer. Mais lui, il va proposer autre chose, donc cette pile omnipuissante, qu'on peut redécouvrir au 19e siècle, car le 19e siècle, c'est le siècle de la presse, de la vapeur, de l'électricité, tout s'élance vers l'avenir. Donc, Roux est aussi un homme de progrès. Le genre humain a perdu l'Éden, il doit le reconquérir par la science et l'amour. En un mot, c'est la transfiguration du monde social par l'Évangile. Perdu dans les hauteurs mystiques où il fait appel à toutes les religions, hein, parce que le christianisme n'est qu'une religion parmi d'autres, ou en même temps sait garder les pieds sur terre, il va dire en résumé, la pile électrique que nous voulons construire et qui est un pendant de la télégraphie électrique et qui doit changer la face de la Terre est une œuvre gigantesque qui réclame l'aide puissante du gouvernement. Quand même, l'idée des subventions est complètement fou. Ici, vous trouvez son profil. Donc, son délire est révélateur d'une sorte d'inconscient, je dirais, des chercheurs positivistes. Avec lui, ça parle. Ça parle sans filtre aucun. L'hygiène, c'est le fondement de la science de Dieu. C'est l'essence de la pureté nécessaire à l'intégration d'une électricité positive. Alors, il faut vraiment concevoir sa pile comme un phénomène de civilisation. Je le cite. « La civilisation, c'est l'hygiène pure. » Et l'hygiène produit le perfectionnement de la matière. Car la seule différence qui existe entre l'homme impur, ou brut, ou le pauvre, ou l'homme de bas aloi, de la lie du peuple, et l'homme intelligent et élevé, c'est que les sept sens de ce premier sont comme nuls, tandis qu'ils sont à l'état orphéique ou d'extase chez l'homme élevé. Et cette différence est causée par la civilisation, c'est-à-dire par la propreté de l'homme intelligent qui produit le développement du système nerveux. Alors, l'étrangeté, je dirais, du système de Roux, si on peut parler d'un système, c'est qu'il fonctionne de façon continuellement manichéenne, le bien et le mal, tout ça, et en même temps, il confond toujours tout. Alors, au milieu de ces réflexions qui opposent force du bien, force du mal, semence de Dieu, semence du diable, électricité pure, magnétisme, s'engouffre toute une série de réflexions plus ou moins confuses, et plutôt plus que moins, sur l'hygiène, la dégénérescence, la physiologie, la pasteurisation et la génétique avant l'heure, la masturbation, le syphilis, le coït, la supériorité naturelle des bourgeoisies françaises et anglaises sur l'aristocratie décadente et le prolétariat, plus la défense du capitalisme comme source de pureté absolue. Alors, le pire, c'est que, malgré le chaos de son discours, ses propos échevelés finissent par faire sens. Et là, je ne sais pas si ça fait vraiment sens ou c'est moi qui finis par être habité par le texte de Texo. Mais lire un texte comme ça, ça fait en sorte en fait, qu'on ne sait plus exactement où on en est. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il radicalise sur le plan à la fois rhétorique et sémantique des propos qui se veulent rationnels des contempteurs de dégénérescence. Parce que la science de Roux, elle a beau s'appuyer sur les grands textes religieux et mythologiques, il reste qu'il colle toujours au corps. Il colle au corps à ses miasmes, aux odeurs, donc à un état de dégénérescence auquel il importe d'échapper, et c'est toujours à ça qu'il revient. Alors, personne n'a lu Roux, mais beaucoup ont lu Morel, et bon, c'est une référence sur la dégénérescence, et on peut comparer avec les premières pages du très sérieux traité du médecin Morel, où on n'est finalement pas très loin dans la folie des propos tenus par Roux, même si c'est beaucoup plus... pondéré. Alors voici comment Morel introduit son sujet sur la dégénérescence. Bon, d'abord, pour lui, ça va de soi que l'homme n'est pas le produit du hasard. Il va s'appuyer sur la Genèse et il parle d'hypothèse suivante, qui admet la dégradation originelle de la nature humaine, agissant seule ou avec le concours de circonstances extérieures, des institutions sociales et de toutes les influences occasionnelles analogues. La difficile question des dégénérescences dans l'espèce humaine doit être étudiée à sa source et poursuivie scientifiquement dans l'examen des conditions nouvelles que dut créer à l'homme le grand événement de sa chute originelle. Les dégénérescences ne peuvent donc être que le résultat d'une influence morbide, soit de l'ordre physique, soit de l'ordre moral, et comme tous les états maladifs, elles ont leurs caractères spéciaux et leurs caractères généraux. Alors, la dégénérescence est le résultat d'une déviation maladive de l'espèce, et là, je recite encore Morel, celui qui emporte le germe devient de plus en plus incapable de remplir sa fonction d'humanité, et le progrès intellectuel déjà enrayé dans sa personne se trouve encore menacé dans celle de ses descendants. Le dégénéré ne peut revenir à un état normal, et il devient non seulement incapable de former dans l'humanité la chaîne de transmissibilité d'un progrès, mais il est encore l'obstacle le plus grand à ce progrès par son contact avec la partie saine de la population. Alors, de Roux à Morel, il y a des passages qui semblent quand même assez évidents. Explication de l'évolution de la dégénérescence à partir de la Bible, lien entre les désordres physiques et moraux, exclusion du marginal de l'humanité, le spectre des modes de dégénérescence est très, très large. Association entre biologie humaine et progrès, ce sont des positions qu'on retrouve donc en même temps chez Roux. Mais à l'époque où la génétique est inconnue, à quoi tient la dégénérescence? Bien, évidemment, la compréhension du phénomène est assez floue. Les positions idéologiques viennent compenser ce que la science ne peut pas démontrer, et on trouve tous les désordres qui nous arrangent. Hein. Face à la pudeur bourgeoise devant la masturbation et le développement de la syphilis, on trouve la promiscuité des pauvres et la sauvagerie du prolétariat qui serait le symptôme qui est responsable de tout ça. Et comme Roux oppose le bien et le mal, le monde médical et politique à sa remorque, va opposer l'hygiène et la saleté, et ça va tout à fait se rejoindre, comme écrit Alain Corbin dans Le Miasme et la Jonquille, il s'agit de guider la physiologie de l'ordre social. Georges Vigarello ajoute, à propos de l'hygiène, qu'au 19e siècle, l'hygiène, ce n'est plus l'adjectif qualifiant la santé, mais l'ensemble des dispositifs et des savoirs favorisant son entretien. C'est une discipline particulière au sein de la médecine. Avec ce titre, un champ s'est brusquement spécialisé. Il s'agit de souligner ses liens avec la physiologie, la chimie, l'histoire naturelle. Et c'est un succès qui n'est pas purement académique. Hein. Autour de 1845, bon, vont se multiplier les hygiènes des familles ou hygiènes populaires. Alexandre Debé publie en 1848 une hygiène et physiologie du mariage qui, en 1888, aura été réédité une centaine de fois. Anne Carole écrit, « Il ne s'agit ni plus ni moins que de se servir du mariage hygiéniquement pour lutter contre les maladies héréditaires. » Il y a même le médecin Pierre Garnier qui va écrire un livre sur l'hygiène de la copulation, ce qui va ressembler à une sorte de Kama Sutra à l'envers, j'imagine, quelque chose d'approche. Hein. Alors, il se développe vraiment, ce que, pour reprendre la belle expression, on évite Vigarello, une pastorale de la misère, où il s'agit de défendre une propreté conquérante où, lentement et confusément, viendrait voisiner l'ordre et la vertu. Au milieu du siècle, les travaux du Conseil de salubrité publique de la Seine énoncent « Un peuple ami de la propreté l'est bientôt de l'ordre et de la discipline ». Alors, malgré ce paternalisme martial, la peur du pauvre qui est associée à la saleté, la promiscuité, le désordre sexuel reste très présente. Je cite encore une fois Vigarello. Bien des réformateurs caressent le projet d'évacuer tout à la fois l'ordure et le vagabond, les puanteurs de l'immondice et l'infection sociale. Alors, la malpropreté pourvoyeuse de vice annonce vermine et licence, délinquance et révolte, et c'est exactement là que se situe Roux, qui, lui, se gêne pas pour fustiger un des modèles de saleté qu'est le pauvre. Il écrit « Il n'y a aucune civilisation possible aussi longtemps qu'il existera un seul chiffonnier. Les chiffonniers font rentrer dans le commerce tous les ferments et les poisons les plus dangereux de la société qui sont introduits dans les injections par la contagion. » Alors, Roux, c'est un peu l'anti-Baudelaire, ça. Le chiffonnier ici cristallise l'image de la promiscuité et le dégoût qui est provoqué par les classes populaires. Face à ça, Roux se moque des propos civilisés d'une bourgeoisie craintive, va écrire, il ne faut pas être plus clair que ça, « La misère est une punition de Dieu. Les miséreux sont presque tous des ivrognes, des lâches, des paresseux, des gens de désordre et le plus souvent même des impudiques. » Alors, j'insiste, sur la diatribe sur le fond n'est pas tellement plus délirante que les propos tenus par le nobelisé Charles Richet, dont je vous lis un autre extrait de la sélection humaine. En proposant la suppression des anormaux, je vais assurément heurter la sensiblerie de notre époque. On va me traiter de monstre parce que je préfère les enfants sains aux enfants tarés et que je ne vois aucune nécessité sociale à conserver ces enfants tarés. Alors, chez Roux, évidemment, la dimension biblique et cosmique de son discours vient complexifier un peu les prétentions scientifiques. À ma connaissance, Roux n'utilise jamais le mot « hérédité ». Et pourtant, en même temps, quand il parle de magnétisme ou d'atmosphère impure, des excrétions qui viennent, je le cite, « des excréments, la sueur, la saleté et la manipulation humaine provenant de son fer et de son inconduite », on peut lier ça clairement à la dégénérescence de l'homme et à son hérédité. L'abjection que Roux voit chez les individus inférieurs rejoint tout à fait l'esprit de son temps sur l'hérédité. Alain Corbin écrit « La puanteur du pauvre s'identifie à la déchéance héréditaire ». C'est ce qu'on sent, c'est le cas de le dire, tout au long du livre de Pierre Roux. Donc, dans ce contexte, c'est pas étonnant que Roux situe dans la liste des poisons des matières impures, je cite, les êtres du bas de l'échelle, la pourriture, la fermentation, la crotte, ou encore toute matière infecte ou corrompue, le fumier, les mauvaises compagnies, les impies. Alors, ça continue comme ça sur une foule de sujets, sur la masturbation, notamment sur la syphilis, bien sûr, dont tout le monde parle à l'époque, où Roux écrit que la syphilis est synonyme de virus, poison, magnétisme, infection, puanteur, excréments, immondices, Satan, sang impur, etc. Ça dure une page. Donc, il y a tout ça. Et dans son combat entre l'ordre et le désordre, l'harmonie et la disharmonie, il existe donc des attitudes comme des individus qui sont cause de maux, comme d'autres qui défendent le bien. Alors, si par exemple, il écrira que l'innervation par éjaculation excessive, parce que quand il s'attaque à la masturbation, échappe aux lois de l'harmonie, échappe aussi aux lois de l'harmonie, attention, l'attraction ou la désorganisation ou la fornication ou le mélange de pur avec l'impur ou le communisme ou le socialisme ou l'association ou les sectes ou la congrégation ou la confrérie, l'intempérance ou la civité, la fermentation, la démolition des compositions, le manger impur, le vêtement impur, l'habitation malsaine, l'air enfermé, la veille, le travail mal combiné, la prostration des formes. On a quand même fait un peu le tour de la question. Et en même temps, si on le suit, si on essaie de suivre son discours, il y a quand même une cohérence assez grande dans ce tableau du désordre que je viens de vous donner. Bon, la syphilis, c'est la cause de la fornication. L'intempérance conduit au travail bâclé et à la paresse, en plus de produire la dégénérescence chez les individus et chez leurs descendants. Évidemment, les habitations malsaines, l'air enfermé, c'est lié à l'exiguïté et à la promiscuité. Ça peut déclencher des maladies qui se propagent. Bon, les communistes, les socialistes, les fomenteurs de désordre, les attaques contre eux relèvent évidemment d'une volonté de pouvoir le pur et l'impur se confondre. Le corps ouvrier, que ce soit au sens individuel ou au sens de classe, ne doit pas se mêler au corps bourgeois. Donc, les frontières entre les classes relèvent autant de l'hérédité et de la biologie que les frontières entre les races. Tout ça est finalement assez cohérent dans son propre discours et assez cohérent avec le discours de son temps. Galton, encore une fois, va entériner à sa manière supposément scientifique avec l'eugénisme ce que la bourgeoisie, en réalité, croit d'instinct. Et en bon commerçant bourgeois, Roux adopte sans résistance aucune cette attitude. Et il va aussi dissocier l'Européen des sauvages, hein, ça passe une fois de plus par le corps. Il va écrire « La grosseur du membre viril est proportionnelle à l'impureté de l'être. Cette grosseur augmente à mesure qu'on descend l'échelle des êtres ou l'échelle humaine ou en allant du nord au midi. » Alors l'échelle humaine, ça descend du nord au midi, ça correspond à un certain consensus qui attribue, depuis les thèses de Joseph Gobineau, la supériorité aux races nordiques. Et il ajoutera dans le même passage que la syphilis, elle, couvre la peau d'ordures, d'impuretés et de monstruosités chez les peuples méridionaux et même en Italie, tandis qu'on n'en voit pas trace en Angleterre. Toujours, Roux revient sur le fait qu'il faut éviter le contact entre pur et impur, entre propre et sale, entre les odeurs immondes qui s'éloignent des odeurs immondes qui transportent les maladies, et être du côté de l'hygiène. Et de manière très prévisible, finalement, ce publiciste qui écrit un livre pour vendre son invention, disons de façon assez malhabile quand même, voit l'harmonie s'exprimer à travers la bourgeoisie, le capitalisme en plein développement. Alors, il écrit « Rien sur cette terre ne ressemble mieux au royaume du ciel qu'un commerce ou une fabrique ou une industrie bien menée. L'ordre, l'harmonie, la propreté, la pureté, l'honnêteté, le bon ton, la prudence, le service, la confiance, la loyauté et l'assiduité, ils sont les guides. » En un mot, l'hygiène. Et ça me rappelait ce que Walter Benjamin citait dans son Baudelaire sur les physiologies, sur les physiologistes. Il citait la physiologie de l'industrie française d'un certain Foucault. Ça va comme suit. Vous allez voir, c'est très près de ce que je viens de dire. « Le repos de la rente pour le travailleur est écrasant. Le ciel a beau être sans nuages, la maison qu'il habite verdoyante, on parle des ouvriers au 19e siècle, le ciel a beau être sans nuages, la maison qu'il habite verdoyante, embaumée par les fleurs et égayée par les chants des oiseaux, son esprit inactif est insensible au charme de la solitude. Si, par hasard, son oreille surprend quelques bruits aigus partis d'une manufacture éloignée, ou même le clapotement monotone du moulin d'une usine, aussitôt son front s'éclaircit. Il n'entend plus le chant mélodieux des oiseaux, il ne sent plus le parfum exquis des fleurs, la fumée épaisse qui s'échappe de la haute cheminée d'usine, le bruit retentissant que l'enclume lui renvoie, le font tressaillir de joie en lui rappelant les beaux jours du travail sollicités par l'inspiration du cerveau. Et Benjamin ajoute, l'entrepreneur qui lisait cette description allait peut-être dormir avec plus de sérénité que d'habitude. Alors donc, je conclue. Au 19e siècle, en médecine, bon, de Claude Bernard à Charcot, on cherche à délimiter le plus possible ce qui sépare science et pseudoscience. Sous l'impulsion de chercheurs comme Pasteur et Bernard, il y a un développement de la médecine de laboratoire qui joue en ce sens un rôle important. Évidemment, une grande partie des réflexions sur la dégénérescence et l'eugénisme se déroulent en même temps, avec un discours qui est en grande partie plus idéologique que scientifique. Mais l'intérêt de Roux, c'est, à la différence de ses contemporains, je dirais, c'est qu'il amalgame sans vergogne tous les discours scientifiques de son époque autour de la dégénérescence et de l'hygiène, et rend aussi explicite et spectaculaire la haine et le mépris souvent larvés chez bien des scientifiques de son temps envers les classes populaires. Mais si on relit Richer, Aubinet, Sanglé ou d'autres, on s'aperçoit que la différence n'est pas très grande. Chez Roux, la dégénérescence, les tares héréditaires, la saleté, la puanteur qui encourage le développement des pathologies sociales se mêlent sciemment, continuellement, à la morale, à la religion, à la haine du prolétariat et à une défense acharnée du capitalisme, en particulier du commerce. Fer de lance de l'hygiène pure, puisque le commerce pousse, je cite, à une conduite pure, par la purgation, vers une alimentation pure, par toute pureté et propreté, et par une grande persévérance. Alors, ce sont donc les traces d'une humanité. Il y aurait une humanité à bannir, une humanité à sauver. Une humanité, en tout cas, dont le mélange, pardon, serait exclu. Une humanité qui serait cadrée, qui serait expliquée, dont les traces seraient lues comme un symptôme. Voici ce qui, chez l'humain, est bien, voici ce qui est mal. Et à sa manière, où traverse les disciplines de son époque, les embrasse pour porter un diagnostic qui est sans appel, mais heureusement, personne ne l'écoute. Mais Pierrot est, en tout cas, bel et bien un fou littéraire. En effet, personne ne l'écoute. Il n'a ni disciple ni maître. Mais j'espère avoir réussi à vous montrer que ça ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas quand même un homme de son temps.